le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le
vestiaire. Il est 3h30. Dominique Bolduc, bonjour.
Salut Michel.
Côté température, le 29, c'est pas le 28.
C'est pas le 28.
Parce qu'hier, il faisait quoi? Plus 8, plus 9?
Oui, on a atteint, hier, on a atteint 8,9 degrés. Et là, on est à moins 15. Ouais. Et moins 27 avec le refroidissement.
Un vent assez froid, merci.
Oui, le vent est assez ordinaire.
En parlant de température, en raison de la température, les glissades en tube au Montfortin fermées ouais. pour l'année. C'est choquant.
OK, pour le reste de l'année.
Ah, le reste de l'année.
De toute façon, il reste plus rien.
Ben, il n'y a pas de remblai de protection. Il n'y a pas tombé assez de neige.
Ouais.
Il n'y a pas tombé assez de neige, alors... Tu sais, la semaine prochaine, tu sais quoi?
C'est la semaine de relâche.
C'est plate pour les tout-petits, mais c'est dame température qui a décidé
ça. On contrôle pas ça.
On contrôle pas la température. Tu sais que ça, on a fermé patinoire également hier.
Oui.
Là, ce que j'ai su aujourd'hui, ils vont faire tout en leur possible. Tu sais, il fait fret aujourd'hui, là. Normalement, on va être capable de récupérer patinoire. Normalement.
OK. Okay bon,
mais tu sais, c'est parce qu'ils annoncent encore des redoux. La problématique est là cet hiver. Tu sais, on n'a pas eu de pêche blanche, mais du moins, pas de cabane. On a eu quelques flétans qui sont sortis, là.
Oui.
Mais tu sais, c'est pas la saison qu'on souhaitait.
Non, c'est pour tous les sports hivernaux.
Tu sais, je te dirais même, là, je parlais avec des gens du Norvégien, là. Aussitôt qu'il va faire chaud un peu, là, on va perdre les pistes. Il n'y a pas de tombée de neige.
Ben écoute. Puis ça va être ça la semaine prochaine. Là. Samedi, on prévoit 9 degrés avec du soleil. Dimanche, 8. Lundi, 7. Mardi, 7. Puis on dit même qu'on pourrait même grimper un peu plus haut que ça. Mardi, là, il y a un front chaud qui s'en vient. Ça pourrait être monté dans les 12-13 degrés. Là. Donc, ouais. On a un 4-5 jours en début de week-end là, qui va faire en sorte qu'on va frôler les 10 degrés.
Les élites budget, ça commence ce soir. La série 2 de 3 contre Rivière-du-Loup.
Oui.
Ce soir, Rivière-du-Loup. Et on s'en revient ici au Foyer des loisirs. Samedi
pour le match numéro 2 et s'il y a un match numéro 3, ce sera dimanche.
Et on surveille du coin de l'œil le championnat canadien de curling parce qu'on a deux joueurs de la région qui évoluent, qui jouent le Brier qui a lieu à Regina, en Saskatchewan. Oui. J'ai parlé avec Jesse Mullen qui sera notre invité demain dans le vestiaire. Alors aujourd'hui, c'est la journée médiatique. J'ai essayé de l'avoir pour après-midi, mais dit Michel, toutes les équipes, c'est la journée médiatique. On doit. Je ne suis pas sûr que je vais être libre à 3h30, 4h moins quart. Mais Jesse Mullen va nous parler demain parce qu'on a Jesse Mullen qui est du club de Kenogami et Philippe Brassard qui, lui, est un ancien de Kenogami. Lui, il était parti à Québec il y a à peu près 15-20 ans pour les études, puis là, j'ai trouvé une job. Mais c'est un ancien du club de Kenogami. Le curling dans la région, c'est fort, là.
Oui, c'est très fort.
Chicoutimi, curling, à Riverbend. Là, Riverbend, les autres, ils ont été 2 ans sans jouer.
On a de très bons clubs, puis les ligues sont là, sont quand même on a de très bons joueurs et tout ça. Puis, tu sais, Jesse Mullen, ceux qui... Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là. C'est un ancien joueur des Voyageurs. C'est un ancien lanceur les Voyageurs, un ancien joueur de baseball qui joue également au curling, puis il performe bien au curling. Tu sais, de le voir au Brier... C'est pas rien, là. Donc, il fait partie des meilleurs joueurs là, québécois qui ont été sélectionnés.
Baseball, tu jases de baseball, là. Les Jays sont en match en concours. C'était 5-0 tantôt, à moins que tu aies un autre résultat. Là, en septième manche, 5-0 pour les Phillies. Et on va discuter tantôt avec Michel Bureau de ce qui se passe au baseball. Là, on est dans...
Je tente d'avoir là, les pointages. Hein. On me donne. Je vais sur la page de hockey, on me donne le hockey. Je vais sur la page de baseball, on me donne
le
hockey.
OK, bon. Le Canadien joue ce soir.
Ce soir en Floride.
Avec Motombo, deuxième match de
suite. Surprenant. Et ça ne sera pas facile contre les Panthers. Non, c'est une des meilleures formations du circuit. Ils ont déjà 39 victoires, seulement 16 défaites. L'équipe avec la meilleure défensive, là, une équipe qui accorde tout presque pas de but. Et un Sergei Bobrovski qui est revenu en pleine possession de ses moyens. Là, depuis qu'il est de retour en forme, là, on voit vraiment de choses très intéressantes du côté de Bobrovski.
Dans les prochaines minutes, on va jaser avec le président des Saguenayens, Richard Létourneau. Parce que la semaine dernière, en fin de semaine, là, ils ont décidé, la Ligue, de réduire le calendrier de 4 parties. Est-ce que ça va avoir des répercussions? C'est les questions qu'on va poser au président des Saguenayens. Puis après ça, on va y parler du rendement de l'équipe. Parce que les Sags, au moment où on se parle, ils sont invincibles.
10 victoires de suite.
Depuis 2-3 semaines, ils ne perdent plus.
10 victoires d'affilée. Hier, une victoire de 5-4 en tir de barrage. Et encore une fois, Émile Guité, Maxime Massé ont contrôlé ce match-là avec 3 points chacun. Et d'ailleurs, c'est Massé qui a réussi le but en tir de barrage. C'est-à-dire que les Saguenayens avaient mal débuté la rencontre. C'était 3-1 Gatineau après la première période. On a changé de gardien. On a amené De La Fontaine. On a fait du hockey de rattrapage. On est revenu de l'arrière. On a forcé la prolongation. Bon, là, on est allé l'emporter en tir de barrage. On avait même marqué en fin de prolongation, mais le but a été refusé à cause d'un hors-jeu. Mais on s'est bien repris avec un but de Maxime Massé. Donc, 10 victoires en ligne pour
là, les Saints. Là, on est parti pour avoir l'avantage de la glace.
Parti comme ça, là, on a rejoint l'Océanique hier. On a tous les deux 65 points. Mais les Saints ont un match en main. Ça va se battre jusqu'à la toute fin. Il y a Cap-Breton qui est également là. Il y a Cap-Breton perdu.
Demain, Rouyn-Noranda.
Rouyn-Noranda, demain et samedi, donc deux matchs. Ça sera pas facile. Les Huskies, c'est une des meilleures formations de circuit. Ils sont quatrièmes, ils ont 81 points. Les Sags en ont 65. Ils ont une bonne formation, les Huskies de Rouyn-Noranda. Ils ont d'ailleurs le meilleur marqueur du circuit, Antonin Véro.
Parce que là, Dominique, si jamais ils gagnent deux fois à Rouyn-Noranda, wow, il va falloir surveiller les Sags en série.
Ouais.
Même si c'est juste des flots, là.
Oui, oui.
Parce que là, les flots, s'ils prouvent, mais s'ils gagnent deux fois à Rouyn-Noranda.
De les voir gagner 10 matchs en ligne comme ça, là, c'est assez surprenant. Bon. Puis comme je l'ai dit, les jeunes vont faire une part des choses, mais pas beaucoup d'expérience en série. La différence, ça va être De La Fontaine devant le filet.
Ouais.
Moi, je pense que ça va être De La Fontaine qui va faire la différence entre nous.
C'est le travail des gardiens de but dernièrement. Ouais. Préfontaine puis l'autre,
Précourt. De La Fontaine et Précourt font le travail. Hier, De La Fontaine est venu en relève à Précourt. Il a fait la job. Il a donné un but en 45 minutes. Puis ils sont allés chercher la victoire.
Puis Guité qui travaille avec Massé, là, il y a du talent dans ces deux gars-là. Hein?
Massé vient de dépasser son record de l'an dernier qui était de 29 buts. Il y en a 31. Il y a 63 points. Il s'en va vers une belle saison. Puis Guité, prochain point, il est à 50. Il a 16 ans.
Ouais.
49 points en 52 matchs. Pour vraiment un jeune de 16 ans, là, c'est assez impressionnant.
Il m'a dit dans deux ans, Massé à 19 et Flo à 18. Là, Yuang en défense, Massé.
Non, ça va être impressionnant à voir. Ça va être beau à voir.
Guité, ça va être beau à voir, vraiment. Là. On réserve déjà des billets. À Barème, en Formule 1, ça a été signé Lewis Hamilton, les essais.
Ben oui.
Même si Verstappen est le favori. C'est Lewis Hamilton qui a dominé les essais.
Lewis Hamilton qui a tenu bon devant Russell. Ils ont tenu à distance l'Aston Martin de Fernando Alonso qui a fini troisième. Lance Stroll est huitième, à un peu plus d'une demi-seconde de Hamilton qui est âgé de 39 ans. On dit que la voiture est intéressante et chose à remarquer, c'est que le Grand Prix de ce week-end, c'est samedi. Maintenant, okay. Du côté de la Formule 1, on a décidé de respecter dans les pays arabes, dont Bahreïn, le dimanche, c'est une journée fériée. Donc, okay. Les qualifications auront lieu demain et la course aura lieu samedi au lieu de dimanche.
À chaque fois que ça va dans des pays arabes?
À chaque fois qu'on va dans des pays arabes. Donc, les deux premiers, je pense que c'est Bahreïn et Arabie Saoudite, toujours comme ça. Donc, la course aura lieu le samedi au lieu du dimanche.
OK. Je reviens au baseball. Rick Anderson.
Oui?
Voleur de but, pas voleur à banque, là. Voleur de but, une carrière de 1406 buts volés.
C'est le record de tous les temps.
Son record dans une saison, 130?
130, en 1982.
130 buts volés. Et s'est-tu fait pincer quelquefois ou trois?
42 fois.
42 fois.
Ouais.
Mais il en a volé 130.
Il en a volé 130.
Il y a une citation qu'on retient de Ricky Anderson. Il dit, pour être utile à mon équipe, il fallait que je salisse mon uniforme.
Ah, il l'a sali souvent.
C'est parce qu'il glissait au deuxième, troisième but. Fait que quand il arrivait avec le costume brisé, parce que des fois, il brisait le costume là. Des fois, ça arrachait les genoux. Puis les...
T'sais, on parle d'un joueur efficace au bâton parce que...
Puis c'est un bon frappeur en plus.
Oui, mais cette année-là, il avait joué 149 parties, 143 coups sûrs, avait reçu 116 buts sur balle, lui qui en avait reçu le plus. Donc, il se rendait sur les sentiers. Il a volé les buts 130 fois. Parce que c'était pas un frappeur de circuit, là.
Ouais.
Écoute, il a frappé 297 circuits dans sa carrière de 25 saisons. Okay. C'était pas un gros cogneur. Mais il se rendait sur les buts, il volait et il réussissait des points. Écoute, il y a une saison là, de 143 matchs, de 146 points marqués.
Et...
Marqué une fois par match, pratiquement. Tout le temps une fois.
Un scoreur.
Un scoreur. Mais quand même ça.
Un scoreur au baseball.
Il se rendait sur les sentiers puis il s'arrangeait pour rentrer au marbre le plus rapidement possible. Mais 130 buts volés, en 149 parties, c'est comme là, à chaque match, là, quasiment à chaque match, là, il vole un coussin.
On peut-tu passer des voleurs de but aux frappeurs de circuit?
Oui.
Tu ne l'as pas vu jouer. Mais quel frappeur de circuit? Hank Aaron.
Oui.
Tu te rappelles-tu du numéro qu'il portait? Le 44.
Ah, 44.
Avec les Braves d'Atlanta.
Ah, ben oui.
Lui, en 1972,
oui,
signe un contrat. Aujourd'hui, là, puis je vais te laisser aller, là, tu me diras combien vaudrait Hank Aaron qui a frappé 700, ou combien de circuits, je ne me rappelle pas, là.
755.
700. Ben, je vois de mémoire, là. 755.
Et aucune saison de 50 circuits. Ça, non, c'est quand même surprenant.
Mais il est 40 circuits, là.
Oh, oui, 44 000.
Et en 1972, il signe un contrat. Puis là, tu me diras combien il vaudrait aujourd'hui, d'après toi, Dominique, là, avec le paquet de circuits qu'il a de laquais, là. 200 000.
Eh oui.
200 000 en 1972. Un gars comme Hank Aaron, aujourd'hui, vaudrait... 40 millions par année?
Ouais, 25, 30, 40 millions. Ouais,
30, 40 millions. Ben écoute, ouais. Otani a signé... c'est vrai que lui, il pitch, puis il lance.
70 millions.
Puis il frappe. Puis l'autre, le Yamamoto, lui, 325 millions?
Ouais. Lui, il n'a pas joué encore dans les
Dodgers, ils ont tué de l'argent, mais ça n'a
pas de bon sens. Mais c'est en train de tuer le sport, littéralement.
Carrément. Ouais. Combien gagnerait Willie Mays aujourd'hui?
Ouais, tu peux en nommer plein.
Bob Gibson?
Tu peux en nommer plein. Ça découvre cette gang-là. Puis non, ce serait des dizaines de millions sans problème. Mais écoute, Hank Aaron a joué 23 ans dans le baseball majeur. Sais-tu combien il a fait en salaire?
Même pas. Je sais pas. Il a-tu fait un million?
2,1 millions.
2,1 millions.
En 23 ans de carrière. Écoute, première année, quand il est rentré à 20 ans, avec Milwaukee, c'était Milwaukee, ouais, les Braves de Milwaukee.
Les Braves de Milwaukee.
En 54, 6 000 $. Après ça, il monte à 10 000, 17 500, puis 22 000, 35, 45, 53, ouais. 70,
puis
92
là,
000.
Que c'était à force brute, il n'y a pas de stéroïdes.
Non, 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 zéro. Ah, non. Et le plus haut salaire qu'il a fait, c'est à ses deux dernières saisons avec Milwaukee, quand il est retourné avec les Brewers, 240 000 $.
C'est un gars comme Rod Carew, qui a gagné le championnat des frappeurs dans la Ligue américaine. Il jouait avec les Twins, lui. Moyenne ou boiter en vie de 3,33 quelque chose. Il frappait 3,38. Ouais. Rod Carew, c'était tout. Ben, c'était pas un frappeur de circuit, là.
Non, non.
Mais un gars comme lui, il vaudrait sur un pesant d'or. Et je pense qu'il a une moyenne à vie de au-dessus de 325.
328.
328. Rod Carew, quel frappeur avec ouais. Les Twins. Ces et gars-là gagneraient une fortune.
Son plus haut salaire, 875 000 en ouais. 85 à sa dernière saison.
Mais là, t'es rendu dans les années 80. Il y a de l'argent. Ouais, il y a de l'argent un petit peu.
L'argent. Gary Carter, on l'avait changé du côté des expos à cause de son salaire.
Au Mets.
Au Mets. Ouais. Il coûtait cher pour les expos dans les années 80. On parle lorsqu'il a été transigé 2 millions.
Ouais. Et ça avait été contre cet échange.
Ben, écoute,
Gary Carter, c'était le joueur le plus populaire. Rusty oui. Stubb était populaire, mais Gary Carter.
Gary Carter était le plus populaire.
Il était le plus populaire, carrément.
C'était tout un joueur. Là.
Tout un receveur, puis il frappait des circuits, des doubles, des coups sûrs.
C'était très efficace, ça.
Tony Gwynn, 8 fois le championnat des Cognards. Tony Gwynn,
lui,
il jouait, oui, il jouait. C'était-tu Minnesota aussi, Tony? Houston, je te parle de Houston.
Non,
Tony Gwynn.
San Diego.
Avec les Padres. 8 fois le championnat des Cognards.
338 en moyenne. Écoute, il n'y a pas une saison qui a frappé en bas de 300 à part sa première de recrue 289. Des saisons de 200 coups sûrs en veux-tu en v'là. Un frappeur de coups sûrs parce que des circuits, il ne frappait juste 135. Mais 3000 coups sûrs en 2400 matchs, c'est efficace. Lui, par exemple, il a joué un petit peu à la fin des années 90, début 2000. C'est là qu'il a fait son argent. Il y a une saison qui a fait 6,3 millions. Mais quand même.
Wow.
Maintenant, un gars qui fait 6,3 millions, c'est un gars qui frappe pour 210. Puis quand tu regardes un gars, moi, lui qui m'écœure le plus, c'est Giancarlo Stanton.
Ouais, ben oui.
Giancarlo Stanton, l'an dernier, avec les Yankees de New York, il a gagné la somme de 32 millions de dollars.
Ça n'a pas de sens.
Il frappait pour 191. On s'entend-tu qu'il y a une couple d'années, un gars qui frappe pour 191, il ne fait pas l'équipe. Ben lui, il frappait pour 191. Oui, il a frappé 24 circuits en 101 matchs, mais 32 millions de dollars. C'est rire du monde.
Vous aimez ça, c'est le baseball? On va en parler tantôt avec Michel Bureau. À venir, dans un instant, le président des Saguenayens. On va jaser de soccer. L'équipe canadienne féminine, hier, qui a gagné 3-0 à la Gold Cup. Et puis, le baseball à 4h15. Les Jays, c'était à 5-0. Ils perdaient 5-0. Mais autant match hors concours.
Ben, c'est ça.
Canadiens, ce soir, en Floride. Je sais pas si les gars, ils ont le temps de jouer au golf. Parce que là, ils jouent en Floride, Tampa Bay après. Entre les deux, ils ont tout le temps de jouer au golf.
pas sûr qu'ils jouent au golf.
Non, hein?
Je pense pas.
T'as les coachs peut-être, puis encore.
Puis encore.
Faut que fassent du vidéo, ils ont
là. Ils jouent il y a deux jours. Fait qu'ils sont arrivés hier, un repos, peut-être un entraînement ce matin où ils se sont entraînés hier.
Ils sont pas en vacances, ça, ils travaillent.
Puis après le match, ils repartent tout de suite parce qu'ils jouent à Tampa. T'as pas vraiment le temps.
Peut-être une corona sur le bord de la piscine, mais une game de golf, c'est 5 heures. Ils n'ont pas le temps de jouer au golf. Voyons, Michel. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? Ils n'ont pas le temps de jouer au golf.
C'est terminé, victoire des Phillies, 5 à 0.
5 à 0. Une pause. Dans un instant, le président des Saguenay-Chicoutimi.
Les dimanches soirs, dès 18h à CKJ, romance.
Let it be me.
Prends bien soin d'elle.
De 21h à minuit, les années ritournelles.
Tout noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.
Participez, vous aussi, à nos émissions. Je suis Éric Lavoie, recherchiste du 92.5. Je vous invite à nous contacter et participer en ondes aux émissions Réveillez-vous et Le Retour. Vous avez une information à partager ou être témoin d'un événement, n'hésitez pas à me contacter en privé au 418-818-4991. Ma radio d'ici, toujours près de vous, 818-4991.
Hockey Junior. Bon, ben les Saguenay-Chicoutimi vont jouer ce soir. Ils sont sur une série de victoires.
Demain,
Rouyn-Noranda. Série de 10 victoires. Le recordman des victoires dans la Ligue junior majeure du Québec, les coachs, c'est Yannick Jean. Et évidemment, le président est sûrement très, très heureux des succès. On va en parler tantôt des succès, mais avant, on a des questions à poser au président des Saguenayens concernant le changement dans le calendrier de la saison pour l'an prochain. Monsieur Letourneau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Tifo, comment allez-vous?
Bien, aussi bien que les Saguenayens de Chicoutimi, 10 victoires de suite.
Ça veut dire que ça va bien, c'est fun.
Ça va bien. On va en parler tantôt des succès des Sags.
Ben oui.
Mais qu'est-ce que... D'abord, avez-vous voté pour, parce que vous êtes gouverneur, pour ou contre les quatre partis en moins?
Écoutez, ça a été unanime.
Il n'y a même pas eu de vote.
Fait que tout le monde a été d'accord avec ça, là, c'était unanime.
Alors pourquoi réduire le calendrier des matchs dans la Ligue dès l'an prochain, là?
Oui, bien effectivement. Donc, mais c'est parce que dans un premier temps, pour que ça soit aussi rapide que ça, c'est-à-dire dans l'année qui suit, ben il fallait effectivement qu'il y ait un vote unanime. Puis la raison, ben dans le fond, faut quand même être conséquent. Vous savez maintenant que la Ligue de hockey junior maritime Québec est une ligue quand même de joueurs étudiants. On dit, puis même la mission de la Ligue dit que les études ont autant d'importance que le hockey, donc il fallait être conséquent avec ça. Et puis, on trouvait ça logique là, d'éliminer quatre matchs. Bon, il y en a qui ont parlé d'aller jusqu'à en éliminer huit, c'est-à-dire d'aller jusqu'à 60, mais un compromis à 64 était drôlement intéressant. Puis par la suite, ben, on verra qu'est-ce que l'avenir va nous dire par rapport à ça. Mais moi, je ne suis pas inquiète que le 4 matchs, là, ça va. La diminution de 4 matchs va aider autant au niveau des joueurs, blessures, des cédules qui sont des fois un peu trop serrées, etc., etc.
De ce côté-là, M. Letourneau, vous avez totalement raison. Là où je me disais peut-être que ça ne passera pas de façon unanime, c'est qu'il y a des équipes qui sont propriétaires, qui gèrent leurs finances. Vous autres, les Saguenayens, vous n'êtes pas propriétaires, vous êtes gestionnaires également, vous devez administrer. Alors, est-ce qu'il y a des coûts, des impacts financiers à ces matchs qui seront perdus localement?
Écoutez, moi, je pense que stratégiquement, l'impact financier, on peut s'organiser pour que l'impact financier ne soit pas si élevé que ça. Dans le sens que ben, les matchs qu'on va éliminer, c'est des matchs de semaine. Les matchs de semaine, ben écoutez, c'est quand même les matchs où il y avait le moins de personnes. En même temps, ben ça va éliminer les voyages de semaine aussi que l'on fait aller-retour. Donc, en bout de ligne, je pense que si... En ayant une stratégie au niveau revenu là, qui est adaptée, je pense qu'il y a moyen de s'organiser pour que l'impact financier soit minime.
La réduction, la demande de réduction du calendrier, est-ce qu'elle vient de la Ligue, des gouverneurs, des coachs? Ça vient de qui, cette demande-là?
Je pense que ça vient d'un petit peu tout le monde, sauf... Ouais, ça vient, je pense, d'un petit peu tout le monde. Là. C'est-à-dire que... Il y avait quand même des agents qui en parlaient, il y avait des journalistes qui en parlaient... après ça, au niveau, les étudiants aussi pouvaient en parler. Mais ce qui est arrivé aussi, là, c'est que, vous savez que c'est quand même pas... ça s'est fait quand même d'une façon rapide, mais faut pas oublier que ça fait quand même qu'on en parlait déjà avant le fameux épisode du COVID. Puis, on avait fait faire une étude dans le temps par une firme spécialisée. Puis quand ça a été le temps d'aller au vote, on a jugé d'attendre un peu par rapport à ça. Mais effectivement, la firme de professionnels qui avait fait le travail, il avait quand même interrogé des parents, des agents, des joueurs, personnel hockey, personnel administratif. On avait quand même l'ensemble de ces réponses-là. Bon, maintenant, il y a quatre ou cinq ans, on était peut-être pas prêts, mais là, avec le COVID, avec... l'importance de la socialisation, l'importance de... Tu sais, je veux dire, le COVID a apporté quand même une autre façon de voir les choses. Fait que, puis vous le savez que bien souvent, ce genre de décision-là, c'est une question de timing. Puis là, les gens étaient prêts présentement à prendre cette décision-là.
Selon vous, M. Letourneau, président des Saguenayens de Chicoutimi, une saison de hockey pour des jeunes de 16 à 20 ans, vous l'avez dit tantôt, là, des pratiques, les études, les voyages... Est-ce que c'est trop dur physiquement pour les joueurs?
C'est pas facile pour les joueurs, Par contre, c'est quand même un avantage aussi parce que ça permet aux joueurs de commencer à s'habituer aussi au rythme du hockey professionnel.
Vous avez raison. Est-ce qu'on doit continuer à jouer dans les Maritimes aussi?
Oui,
si on ne coupe pas ça?
Non, effectivement. Puis je pense que le voyage dans les Maritimes, là, quand il est bien organisé, là, c'est des beaux voyages. Puis moi, je peux vous dire, j'en fais un par année. Fait que je suis l'équipe, je peux voir comment ça fonctionne. Fait que c'est bien organisé. Les joueurs ont des périodes d'études. Quand c'est le voyage au Cap-Breton, on a un professeur qui accompagne les jeunes. On est quand même très, très bien organisé. Puis, c'est au contraire, c'est le genre de voyage qui cimente l'esprit d'équipe, puis qui permet aussi de vivre quelques jours ensemble. Puis, comme je vous dis, c'est qu'il y a quand même des périodes d'études qui sont préparées, qui sont cédulées à l'intérieur de ce voyage-là. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins... On fait beaucoup de routes, mais une fois qu'on est rendu par la suite, c'est quoi? C'est 3 heures pour se rendre d'une ville à l'autre. Donc, ça se fait quand même assez bien. Là.
En tout cas, vos joueurs prouvent qu'on est capable de jouer au hockey, junior majeur, puis d'être bon à l'école. Il y a le défenseur Alex Yuan qui est très, très bon à l'école. Puis il y en a un autre, Alexis Morin, qui a fait sa demande en médecine. Fait que les gars sont pas trop totoches à l'école, hein?
Oui, puis effectivement, puis là-dessus, je pense que je vais en profiter aussi pour féliciter Yannick Jean puis toute son équipe, parce que nous, vous le savez, on est quand même une référence au niveau de la Ligue concernant les études. Puis quand il arrive des moments comme ça, il faut le démontrer. Puis quand ça a été le temps de dire à Alexis Morin, Alex, on te permet de pas jouer au hockey la semaine prochaine pour que tu puisses pouvoir faire ton examen pour rentrer en médecine à McGill, je pense que ça, c'est de démontrer vraiment l'importance des études. Puis je vais aller plus loin que ça. Quand c'est la période des examens au cégep, les joueurs ne sont pas obligés de faire les pratiques afin de pouvoir se concentrer à leurs études. Je pense que ça, c'est des faits qu'on réalise qui permettent de dire que oui, les études, c'est important.
Alors, vous êtes content de votre personnel hockey, de votre personnel qui s'occupe des études. Votre coach est le nouveau recordman de la Ligue junior majeure du Québec. Allez-vous organiser un party pour le féliciter avec 590, 91, 92 invités?
Hey, écoutez, je veux pas vendre la peau de l'ours là, ou de divulguer quoi que ce soit, mais vous l'avez dit, là, c'est quand même un record qui est drôlement important, puis d'autant plus que Yannick est l'exemple parfait de quelqu'un qui est dédié au hockey, puis en plus, qui est fier de sa place natale. Yannick a tout fait son stage junior à Chicoutimi, c'était son rêve. Par la suite, il est allé jouer au hockey à l'extérieur. Il est revenu, il a commencé sa période d'apprentissage comme instructeur, comme adjoint ici à Chicoutimi. Puis, 15 années plus tard, ou à peu près, il est revenu ici comme directeur gérant puis instructeur. Puis on voit tout ce qu'il fait, autant au niveau hockey qu'au niveau structure organisationnelle. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on souligne, effectivement.
Monsieur Les Tourneaux, vous nagez dans le bonheur. Votre coach est un recordman. L'équipe va bien. 10 victoires de suite. Il y a du monde dans les estrades.
Oui, effectivement.
Alors, pour une organisation, avoir du monde dans les estrades, c'est presque le parfait bonheur, parce que c'est ça qui est le plus important. Vous travaillez fort, vous faites des promotions, vous essayez d'avoir une bonne équipe, mais en bout de ligne, ça prend du monde dans les estrades. Puis je pense que le public répond bien à une équipe. Puis là, vous avez 10 victoires de suite, mais ça reste une équipe qui est en reconstruction.
Effectivement, puis vous l'avez dit, c'est que le meilleur outil marketing pour une équipe de hockey, c'est les victoires, ça c'est sûr. Puis effectivement, les partisans voient un peu l'évolution de l'équipe, l'amélioration, la qualité de nos jeunes, autant au niveau du jeu qu'au niveau extérieur de la patinoire. Puis je ne sais pas si vous étiez présent vendredi passé, mais il s'est passé quelque chose au niveau de ce match-là qui a été extraordinaire. Là, on sentait que les gens étaient en train de vivre ou avaient une possibilité de vivre un moment historique. Puis quand la victoire a commencé à s'officialiser à 3-0 puis à 4-0, les 5-6 dernières minutes de jeu, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de l'amphithéâtre qui était extraordinaire. Puis c'est dans le fond, puis c'est ça notre paye, hein. C'est pour ça qu'on fait du hockey junior, hein. C'est vraiment, c'est notre patron dans le fond, c'est nos partisans. Donc c'est de leur donner un produit pour que les gens puissent avoir du plaisir.
Et là, les séries illuminantes, oui.
Puis être fier de leur équipe aussi. Moi, la priorité de l'organisation, c'est ça, c'est que fier d'être SAG, puis fier d'être un partisan des SAG. Tu sais, la fierté, c'est drôlement important pour nous. Là.
Et ce qu'on pense, puis vous devez penser à la même chose que nous autres, normalement, l'année prochaine, puis dans l'autre, puis peut-être dans l'autre, ça va être encore meilleur.
C'est ça. Oh, oui, effectivement. Effectivement. Écoutez, quand on dit qu'hier, nos gros canons ont produit, bon, on parlait des gens de 16 ans puis de 17 ans. Là, ça démontre qu'effectivement qu'il y a un avenir qui est drôlement intéressant.
Nous autres, on pense sincèrement qu'on va boire dans la Coupe Memorial avant de boire dans la Coupe Stanley. Parce que la Coupe Stanley, là, ça va prendre un bout de temps à Montréal, tandis que la Coupe Memorial, on a le droit de rêver en couleur. Là, on l'a manqué notre shot il y a 2-3 ans, là. Mais avec ce qui s'en vient, si on ne gagne pas, on ne sera pas loin.
Je pense qu'effectivement, là, on va s'organiser pour que nos partisans aient beaucoup de plaisir. Parce que on l'a souligné tantôt, quand on disait que Yannick jouait pour les Saguenayens en 93-94, ben 94, c'est la dernière année où les Saguenayens, écoutez, ça fait 30 ans, là.
Ouais, ça fait 30 ans.
Les Saguenayens ont gagné la Coupe du Président, qui est maintenant la Coupe Gilles Courteau. Donc, 30 ans, c'est une génération, là. Fait que je pense que nos partisans méritent d'avoir vraiment du bon hockey, là, pendant une couple d'années consécutives.
Monsieur Les Tourneaux, on se le souhaite. On va se reparler très bientôt.
C'est toujours un plaisir, cher ami.
Merci.
Merci.
Richard Letourneau, le président des Saguenay du Coutimi. On a le droit d'y rêver, Dominique, parce qu'on ne peut pas rêver à Coupe Stanley. Là. Pas de suite.
Non.
Ça va prendre un maudit bout de temps. On sait pas. Et Toronto fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe?
57.
Ben, 57, ça veut dire qu'on le vivra peut-être même pas. Si on... Ça prend 50-60 ans. Hein. Dominique puis moi, on ne vivra pas ça, puis vous non plus. À moins qu'il y ait des jeunes du primaire qui nous écoutent. Là. Mais à Coupe Memorial, c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas vendre La peau de l'ours avant de l'avoir tué.
En tout cas, le plan jusqu'ici fonctionne.
Ouais.
On a des bons jeunes, ça développe bien, on a une bonne équipe.
On a des choix en banque pour aller...
On a encore des choix pour s'améliorer.
On va le dire, depuis pour se pacter. Non, on appelle ça pacter une équipe.
Dans deux ans, l'année prochaine, puis dans deux ans,
on se pacte une équipe.
Tu vas avoir les éléments nécessaires à échanger, des choix pour aller chercher des joueurs.
Les meilleurs 19 ans, puis les meilleurs 20 ans.
C'est ça, exactement.
Coutumigo.
Dans deux ans, les meilleurs 19, là, moi, j'en vois un. Puis, j'en ai déjà parlé, mais un 19 ans qui va être libre dans deux ans, là, c'est Raoul Boilard.
Oui.
Raoul Boilard, il a 17 ans cette année. Oui, c'est éligible au repêchage. Il a 54 points. C'est un bon joueur. Tu sais, Bécomo, c'est cette année. Après c'est ça, ils vont liquider.
C'est ça. Saguenay.
On pourrait aller chercher Raoul Boilard. Ça pourrait arriver, là.
Carrément.
Ça pourrait être une possibilité.
Carrément.
Donc, c'est en allant chercher ce genre de joueur-là, tu te pactes un club, puis tu as des bonnes chances de gagner.
Et on se le souhaite. Dans un petit moment, il sera question de soccer. Le Canadien joue ce soir en Floride contre les Panthers. Il va y avoir du monde. C'est pas toujours plein là-bas en Floride, mais quand le Canadien est là... Mais
les foules cette année sont intéressantes.
Ouais, mais c'est pas toujours plein. Des fois, cette année, c'est meilleur.
Écoute, la moyenne de foule, là, j'ai vu ça ce matin, j'ai fait un saut.
Au-dessus de 17?
Ah, écoute, on est à 18 501.
Ah, c'est pas mal plein.
18... C'est pas mal plein.
C'est en moyenne, ça?
Oui, ah ouais, 18 501 depuis le début de la saison.
Ça fait de la dog pas mal, ça.
Ouais.
Une pause dans un instant de soccer.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Au Québec, la grossesse pour autrui est désormais encadrée par la loi afin de protéger les mères porteuses et les enfants à naître. Pour connaître les règles en vigueur, rendez-vous au québec.ca/grossesse-pour-autrui. Un message du gouvernement du Québec.
Vous souhaitez en apprendre plus sur votre audition? Quoi faire avec un acouphène? Quels sont les premiers signes d'une perte auditive? Quel impact une baisse d'audition peut avoir sur la santé? Ne manquez pas la chronique du groupe Forget tous les premiers lundis de chaque mois à 9h10. Des suggestions de sujets à traiter dans cette chronique? Écrivez-nous. Le groupe Forget audioprothésiste vous invite à consulter son site Internet à entendre-mieux.com. Le groupe Forget, la référence en santé auditive au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Un membre de votre famille reçoit des traitements médicaux à l'extérieur de la région? La Fondation Ariane peut vous aider en partie à payer transport, essence, stationnement, nourriture et hébergement. La Fondation Ariane, toujours présente pour offrir un soutien financier à votre famille. Informations sur leur page Facebook.
Ludovic, c'est comment de jouer au hockey avec son père?
Au début, papa comptait tous les buts. Mais au bout d'un moment, il s'est fatigué et il est tombé par terre. Et puis là, je suis passé devant...
Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Puis, Sarah, comment on se sent après une bonne randonnée?
Très contente. Oh, ça fait du bien. Waouh, la vue!
Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
Et la saison du CF de Montréal est commencée avec un match nul. Benoît Lavoie, espacesoccer.com. Bonjour.
Salut Michel et Dom.
Que penses-tu de la première prestation du CF?
Ben écoute, il faut pas. On le sait, c'est 6 matchs à l'étranger. Donc, résultat, on est allé chercher un point en début de saison. Moi, je pense que c'est un point important déjà là, pour bien partir la saison. On a vu le début de match avec Coccaro et puis Yankov. Beaucoup d'intensité, je dirais. Un bon 10-15 minutes, là, le CF aurait pu marquer un but, peut-être deux. On a eu des bonnes chances. On voyait que les gars voulaient. Donc, Coccaro, il va être très intéressant. Je pense qu'il va mettre beaucoup de hargne ou du chien, comme on aime bien dire ici, là, contre les défenseurs adverses. Et par la suite, ben c'est sûr qu'on avait un bon adversaire devant nous, l'Orlando, qui sont dans les favoris de la Ligue cette saison. Donc, après ça, on a vu Orlando prendre le contrôle un peu du jeu. Quand on regarde un peu le CF a quand même 9 tirs, Orlando 15 tirs. Tirs cadrés, quand même, c'est 5-4 pour Montréal. Possession 60-40 pour Orlando. Donc, un résultat satisfaisant dans les circonstances, en début de saison. Puis Martinez aurait pu, il a eu une chance, il est embarqué en deuxième demi, a eu la chance de mettre dedans, il a manqué le cadre de peu. On aurait pu sauver que la victoire en fin de match. Puis il faut regarder le 11 partant là, de l'entraîneur Courtois, là, 3-4-2-1. Donc, 3 défenseurs, 4 demi, avec Piet en avant, là, puis demi défensif. Chouanière qui a joué un très bon match aussi. Donc, satisfaisant quand même comme résultat. Là.
On sentait qu'il y avait de la ténacité du côté du CF de Montréal. Dis-moi, c'est juste une game, mais c'est encourageant. On est-tu meilleur que l'année passée, d'après toi? C'est juste une game.
Oui, juste une game, mais juste avec ce qu'on est allé chercher comme joueur là, au niveau de l'offensive, je crois que oui. Là. Juste ça. Là. Puis, à un moment donné, on va se dire, après quatre matchs, si on n'a pas marqué de but encore, on va dire, bon, mais là, c'est le jour de la marmotte avec l'année passée, parce qu'on n'a pas arrêté de demander des buts. Là. C'est ce qui nous manquait souvent.
Ouais,
là. Ouais. Mais moi, je pense que ça va arriver. Là. Puis, j'ai confiance à Coccaro. Puis Martinez, il manque de forme un peu. Ça fait pas longtemps qu'il a commencé ses camps d'entraînement. Il est arrivé en retard un petit peu. J'ai confiance aussi. Donc,
As-tu confiance au coach? Il te fait une bonne impression pour l'instant?
Je pense que oui. Mais j'étais surpris un peu quand même. Je me serais attendu, quand on regarde les remplaçants, il a fait des bons remplaçants à la fin de match, Zouir et Opoku. Opoku ont fait quand même une belle entrée. Le défenseur Rouen aussi, qui est un Brésilien qu'on est allé chercher vraiment à l'aile, demi à l'aile, vraiment un bon joueur. Il va être talent, lui, à surveiller Rouen, qui est un Brésilien. Puis l'assisteur de l'autre côté aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Puis il faut voir les combinaisons entre les joueurs aussi. Au niveau de Bryce Duke, un petit peu difficile. J'ai pas trouvé qu'il avait fait un grand match. C'est un gars qui, normalement, contrôle le jeu, fait des passes, mais il manque un petit peu, à mon avis. Puis j'étais un peu surpris de ne pas avoir remarqué Victor Wanyama, même dans les substituts. Est-ce qu'on peut voir, est-ce que l'entraîneur va aligner à un moment donné Piet et Wanyama qui ont un peu le même profil de joueur? J'ai hâte de voir s'il va l'essayer, mais c'est deux gars à caractère défensif en avant de la défense, à moins qu'on joue contre une équipe et qu'on sait qu'il y a des gros joueurs à l'attaque. Peut-être contre Miami la semaine prochaine, le 10 mars, on va voir. En fin de semaine, on joue contre Dallas, mais oui, je pense que faut laisser la chance au coureur, hein, ça commence. Fait que,
qu'est-ce qu'on sait de Dallas en 2024? C'est une équipe qui pourrait donner du fil à retordre au CF, ça me dit?
Ben, c'est un match à l'extérieur. Puis ouais. Dallas, ben oui, ce ne sera pas évident non plus. Je pense que si on regarde leur premier match, Dallas dans la conférence de West, ils ont quand même remporté leur match 2-1. Donc, ça va être un bon match, mais c'est des matchs à l'étranger. Puis des matchs à l'étranger, les autres, ils ont gagné contre San Jose la semaine dernière. Donc, des matchs nuls, des points qu'on va chercher sur la route, ce sera toujours bon. Puis pourquoi pas aller chercher une coupe de victoire à travers ça, parce que c'est 6 matchs consécutifs, puis il en reste 5, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas évident. Donc, on a Dallas en fin de semaine. Le 10, on a Miami. On va jouer contre Messi et Suarez et compagnie. Ensuite, on va jouer le 16 la semaine d'après à Chicago. Il y a un break international, on va revenir le 30 contre DC United, encore à l'extérieur. Puis le premier match à Montréal sera le 13 avril contre Cincinnati. Donc tous les points qu'on va chercher là, en début de saison, ça va être important là, quand on va arriver là, en fin de saison. On sait que les points, là, il en a manqué pas beaucoup l'année passée. Là.
Oh, OK, on suit le Canadien, mais on suit également les vedettes ailleurs, les Austin Matthews à Toronto, Connor McDavid à Edmonton, les bons joueurs au Colorado, Connor Bedard à Chicago. Au soccer, bien évidemment, il y a Lionel Messi, il a déjà compté un but avec l'Inter de Miami. Alors lui aussi, on le surveille du coin de l'œil. Il demeure encore l'attraction cette année, là.
Ah oui, ben oui, mais j'ai regardé le match contre Los Angeles. Ce match, c'est dimanche soir, 21h. Je regarde les horaires un peu en fin de semaine. Tu sais, le CF joue ses matchs souvent à 19h, 19h30. Miami joue à 16h30. J'aime ça que ça ne soit pas ensemble. C'est parce que moi, j'aime bien écouter Messi. J'aime bien regarder Messi là, qui est dans ses dernières années. Puis que à tous les fois qu'il touche le ballon, il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose. Puis contre Los Angeles, ça n'a pas été évident. Le match, c'était à Los Angeles, c'était pas à Miami. Los Angeles a pris les 1-0. On a vraiment eu l'avantage du jeu. J'ai dit, oh, Miami a beaucoup de failles. Même si on a Messi, on a Suarez. Suarez est à l'attaque et c'est un gros attaquant, mais on voit qu'il n'est pas prêt. On se demande si c'est pas une blessure au genou. L'entraîneur, Martino, l'a changé à la 65e minute. Il était fâché de ça. Il n'était pas content, le monsieur. Il n'a même pas passé par le centre pour saluer son remplaçant. Il est sorti dans le coin. Fait que ça va des choses à gérer déjà pour le coach. Tu sais. C'est des grosses têtes souvent. Hein. Ouais. Mais Suarez n'était pas dedans. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si le gars n'est pas dedans. Mais Messi, en fin de match, avec son compagnon de Barcelone, Jordi Alba, ont fait un jeu incroyable. Ils peuvent revirer un match sur rien, les autres. Là. C'était 1-0, c'était pas un gros match, puis là, ça a fini en 1-1. Ouais. Messi a un but, une passe décisive, madame.
Et du côté féminin, la Gold Cup de la CONCACAF, les filles sont donc bien bonnes. Je regarde les résultats. Elles ont gagné 6-0 contre le Salvador, 4-0 contre le Paraguay, et hier, 3-0 contre le Costa Rica. Défensivement, ça passe pas.
ça passe pas. Très belle. Écoute, l'entraîneur Prettyman est en train de remettre les choses en place depuis le départ de Christine Sinclair. Là, c'est un gros morceau que l'équipe féminine est partie avant les fêtes. Christine Sinclair, on connaît sa feuille de route, on connaît sa carrière. On a fait une tournée d'adieu un peu partout, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, puis même à Halifax, je crois. Donc, ça a été des gros moments. Maintenant, on tourne la page, on avance, on se prépare pour les Olympiques après les fêtes l'été prochain. Et la Gold Cup est un beau tournoi de préparation. Puis c'est le fun, ce tournoi-là, parce que on a invité des équipes de la zone Amérique du Sud aussi, dont le Brésil et l'Argentine. Le Paraguay est là aussi. Puis c'est le fun d'avoir le volet féminin. Puis c'est du beau soccer. J'invite les gens à regarder ça. C'est sur One Soccer. C'est seulement plate que ça soit pas sur RDS, la plateforme de soccer canadienne. Là, ça, c'est des droits qui ont été donnés il y a quelques années. Puis en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, l'équipe féminine. Ce qui est drôle là-dedans, Michel, c'est qu'écoute, il y a trois groupes de quatre. Donc, il y avait 12 sélections, 12 équipes à ce tournoi-là. Le Canada, 3 victoires. Et on a pris un classement de... On prenait les deux premières équipes de chaque groupe. Donc, ça fait 3 groupes, ça fait 6 équipes. Puis on a invité les deux meilleurs troisièmes. Les deux meilleurs troisièmes, ça tombe que c'est Argentine et Costa Rica. Donc, ça fait en sorte que le Canada a eu la meilleure fiche dans toutes les équipes dans les trois groupes. Et le Canada rejoue contre Costa Rica. Donc, on a joué hier contre le Costa Rica. Ça, je trouve ça bizarre un peu, mais c'est la formule du tournoi. On a gagné 3-0 et on joue contre le deuxième meilleur deuxième. On repogne le Costa Rica le 2 mars prochain, donc dans 2 jours, en quart de finale. Après ça, de l'autre côté, tu as les Américaines contre la Colombie. Donc, on sait que les Américaines ont toujours donné du fil à retordre à l'équipe féminine canadienne. Donc, on pourrait se retrouver avec une demi-finale Canada-États-Unis, à mon avis, à moins que la Costa Rica cause des surprises en quart de finale, on ne sait jamais. On a 2 autres quarts de finale intéressants, Brésil-Argentine, même si c'est féminin, ça va être un très gros rendez-vous aussi. On sait que chez les hommes, c'est des gros rendez-vous, mais c'est la même chose chez les femmes aussi. Quoique, je crois que le Brésil est avantagé pas mal, l'équipe brésilienne sont très fortes. Et Mexique-Paraguay dans l'autre quart de finale. Donc, le tournoi se finit le 10 mars à San Diego. Et les demi-finales seront le 6 mars. Donc, à surveiller, ça va être une belle fin de tournoi. Là.
Et ici, dans la région, ben, on a encore de la neige et de la glace sur nos gazons extérieurs. Alors, on joue sur le synthétique à l'intérieur.
Ça se termine en fin de semaine, Michel. À Saguenay, c'est terminé. À Alma, c'est parce que c'est des games de reprise. Il y a eu une tempête au mois de janvier, puis on avait annulé des matchs. Donc, les matchs se terminent samedi et dimanche dans les catégories U11, U12. U13, U9, U10 le samedi à Alma, puis U13, U14 le dimanche. Et en même temps, à Saguenay, je crois que c'est les entraînements pour les équipes 3 de cet été. On sait qu'il y a 4 équipes qui vont jouer dans le niveau 3A là, au niveau de la région. C'est une nouveauté là, pour la région cette année. On est allé chercher les meilleurs joueurs des catégories. Ça fait déjà un mois là, que les jeunes s'entraînent. Puis justement, les parents, les bénévoles, les entraîneurs sont déjà dans des moyens de financement là, pour essayer de trouver des formules pour que les coûts soient moins chers chez les jeunes-là, parce que c'est des tournois tous les 5 ans. Ça va commencer bientôt. Je pense que ça commence dans les centres intérieurs. On va les jouer à Montréal déjà très bientôt, à Québec, un peu partout dans la province. Puis on parlera un petit peu plus de ces équipes-là. C'est très intéressant. Là. C'est du beau calibre, c'est du beau soccer là, pour les jeunes de la région. Puis on va chercher les meilleurs joueurs de ces catégories-là, tant à Saguenay, tant qu'à Alma. On les regroupe ensemble. Puis le Haut-du-Lac, il y a quelques jeunes du Haut-du-Lac qui sont là-dedans aussi. Donc ça va être à surveiller cet été-là.
Benoît Lavoie, merci beaucoup. Puis bonne fin de journée.
Salut Michel et Dom.
Au revoir.
Salut.
J'ai une correspondance de Sunrise, Dominique.
Ah oui?
Les Canadiens jouent là ce soir en Floride.
Ah oui, contre les Panthers.
Il y a des billets à 40$.
Ah, ben c'est intéressant.
Avec stationnement gratuit.
Hey,
c'est la Ligue nationale de hockey, là.
C'est ça qui coûte le stationnement au Centre Bell, 40$.
40$, puis une bière est à 20$.
T'as 15 ou quelque chose.
J'exagère un peu, 20.
Mais c'est rendu 40$ le stationnement au Centre Bell.
C'est quand on est allé au Centre Vidéotron, à l'ouverture, il y a une couple d'années, il y a 5-6 ans, là. Dominique Limon s'achète une bière. Comment ça avait coûté? Je ne me rappelle pas. On avait fait le saut. Il disait, Dominique, on prend une bière.
C'était 9.
9.
Junior.
On avait fait l'émission. Puis je lui disais, Dominique, on prend une petite bière. Je prends 9 bières.
Ben, allez au Rempart. D'abord, le stationnement, je pense que c'est 8 ou 10$. Puis aller voir un match au Rempart, je pense qu'en série, l'année passée, c'était 28$ aller voir un match. Puis je pense que c'était 30. C'est pas mal plus cher que d'aller au stade, même si. Les billets ont augmenté un peu partout. Je pense que c'est maintenant rendu 21 ou 23$ à l'eau 16. Ouais. Mais ça. À l'eau rempart, c'est un petit peu plus cher. Puis si tu veux te stationner proche, il faut que tu payes.
Et c'est Lewis Hamilton qui domine la Bahreïn. C'est pas terminé, c'est samedi. Dominique. Samedi.
Qualification demain. Ouais. On aura tous les détails avec Jean-Michel Tremblay demain. Et le Grand Prix sera samedi.
Et Dominique nous a expliqué pourquoi c'est samedi. Il y a les élites midget qui sont du côté de Rivière-du-Loup.
Ça commence ce soir.
Bonne chance. Si on gagne ce soir, ben, il en reste une à gagner. Puis on a deux chances au Foyer des loisirs.
Ben, c'est ça.
Ce week-end, samedi et dimanche. Dans un moment, paf, la balle est frappée. Et on jase de baseball avec Michel Bureau.
Arrêt de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
Puisque la mort fait partie de la vie, pourquoi ne pas en parler?
Développement durable.
Lise Tremblay, agente d'accueil.
En 2009, la coopérative s'est engagée dans une politique de développement durable. Avec cet engagement, la coopérative désirait s'impliquer et s'investir dans ce grand enjeu planétaire, tout en se positionnant comme leader en matière de développement durable dans le secteur funéraire et dans sa communauté.
L'Alliance funéraire du Royaume, présent à chaque instant.
Le 92.5 vous invite au prochain match des Marquis sur la route.
Un seul match pour les Marquis ce week-end et c'est sur la route ce vendredi 20h au centre Premier Tech alors qu'ils rendront visite aux 3L de Rivière-du-Loup. Ne ratez rien de toute l'action sur les ondes du 92.5 avec Jean-Michaël Fortin.
Les Marquis sur la route, une présentation des centres d'autonomie, de l'étoile Dodge Chrysler, de Lebeau Vitre d'Auto, des dépanneurs Chef Maestro, d'Arachide Dépôt Jonquière. De la bijouterie au rubis, place du Royaume, des trésors de Saint-Bruno et de Hyundai du Saguenay.
Baseball.
Le baseball, c'est avec Michel Bureau que ça se passe. Michel Bureau, bonjour!
Bonjour mes amis, ça va bien?
Très bien. L'an dernier, on a évalué, on a analysé, on a critiqué le travail de Manoa, le lanceur partant des Blue Jays de Toronto. Cette année, il est mal parti. Mais avant de critiquer puis de lancer la serviette, on va donner la chance au coureur. On est en match hors concours. Mais as-tu encore des espoirs envers le lanceur partant des Blue Jays?
Écoute, Michel, c'est la cinquième roue du carrosse, hein? Les Blue Jays, c'est le cinquième partant numéro 5. Premier départ de Manoa en début de semaine contre les Tigers de Détroit. Ça n'a pas été un succès. Par contre, on a vu des images. Bon, il a maigré un peu. Il semble en meilleure forme. L'entraîneur des lanceurs, Pete Walker, se fait rassurant concernant Manoa. Il dit qu'il va trouver ses moyens. Mais en une manche et un tir contre les Tigers de Détroit, 4 points, 3 coups sûrs, 1 but sur balle. On a l'impression de revivre le cauchemar qu'on a vécu à quelques reprises avec Manoa l'an passé. Alors, on va lui donner du temps, mais écoute, c'est pas rassurant ce qu'on voit de Manoa à venir jusqu'à maintenant. Par contre, il y a quand même de belles surprises du côté des Blue Jays. Danny Jansen est revenu en très, très bonne forme. Alejandro Kirk, le receveur, qui l'an passé avait connu lui aussi une saison très difficile après avoir connu la saison précédente, une très, très bonne saison. Ça semble se replacer dans son cas, mais il y a une recrue qui s'impose chez les Blue Jays. Il s'appelle Alan Roden. C'est un voyageur de droite. Un circuit à son premier match. Il a bien fait défensivement. Alors, il y a des joueurs qui en profitent. Comme cet après-midi, les Blue Jays disputaient un sixième match dans la Ligue des Pamplemousses contre les Phillies de Philadelphie. Ils ont perdu 5-0. Ils ont une fiche de 2-4 à venir jusqu'à maintenant. Mais par contre, il y avait juste trois joueurs de l'alignement partant régulier des Blue Jays, soit Springer, Kiermaier et Vladimir. Puis ça, la bonne nouvelle aussi, c'est que Vladimir a frappé 2 coups sûrs cet après-midi.
Bon, j'ai hâte de voir quelle sorte de saison il va nous offrir, Guerrero. Il doit augmenter un petit peu sa puissance et ses coups sûrs, là, parce que...
a perdu du poids, puis honnêtement, moi, je m'attends à une saison... sa meilleure saison dans le baseball majeur, selon moi, Vlad.
J'espère qu'il est quand même heureux de ses 19 millions, même s'il en voulait plus. Là. C'est de la grosse argent. 19... Tantôt, on comparait, on donnait le salaire de Hank Aaron, Dominique puis moi. En 1970, Hank Aaron avait signé pour 200 000 avec les bras, 200 000 Hank Aaron en 1972. Hein? En 1972.
Ben, souvenez-vous, les gars, quand Gary Carter est devenu le premier joueur dans l'histoire des Expos, gagné un million, Brockman avait tombé en bas de sa chaise. Ouais. Il a quasiment fait une dépression.
Exact. On regarde un petit peu. Ben, on a plusieurs Québécois dans le baseball majeur qui s'entraînent en Floride. Là, Taureau avec les Aces d'Oakland, il frappe des coups sûrs aussi.
Oui, il a frappé 2 coups sûrs à son premier match. Ça va bien encore cet après-midi. Il y a de l'alignement partant pour les Aces d'Oakland. Il y a de bonnes chances de se tailler une place. On l'aime bien là-bas. L'entraîneur Cotier dit de lui, c'est un joueur polyvalent. C'est un joueur qu'on peut utiliser à l'avant-champ comme au champ extérieur. Alors, c'est un atout de plus dans le jeu d'Abraham Toro, qui n'a pas eu vraiment la chance de se faire valoir à venir jusqu'à maintenant, mais probablement qu'avec les Aces d'Oakland, on va lui donner toutes les chances possibles. Moi, je pense qu'il va faire l'équipe.
Puis un qu'on va voir toute l'année au Minnesota, parce que le joueur de deuxième but régulier est parti, puis Édouard Julien connaît tout qu'un cas d'entraînement, il est à 571 de moyenne.
Ah ouais, écoute, lui, là, c'est officiel, c'est le deuxième but officiel des Twins du Minnesota. Puis on s'attend à toute une saison de son côté. On est très fiers. Puis c'est un très bon ambassadeur pour son sport aussi, parce que ici, tu sais, c'est un gars de la région de Québec. Après la saison hier, il s'est impliqué dans différents événements. Il est venu aussi enseigner du baseball aux jeunes ici dans la région de Québec, sous le dôme au Stade Canac. Alors, c'est un gars qui s'implique beaucoup dans la communauté. Puis on est très, très content, bien sûr, de ses succès. Mais il y a aussi Charles Leblanc. Vous vous souvenez, les gars, Charles Leblanc, qui était avec les Marlins, finalement, il a été rétrogradé, mais il a connu quand même un bon début avec les Marlins. Bien là, il était avec les Angels de la Californie. Lui aussi s'est signalé au camp d'entraînement, coup sûr opportun, coup sûr bon pour deux points. Les buts étaient remplis lorsque Charles Leblanc s'est présenté au bâton, puis il a frappé en temps opportun. Lui aussi marque des points du côté des Angels. On pourrait le retrouver dans l'alignement régulier des Angels dès le début de la saison.
Et Otto Lopez, est-ce qu'il fait le club à San Francisco?
Otto Lopez, écoute, c'est un joueur rapide, hein? C'est une clé dans le jeu des Blue Jays. J'espère qu'il y a des joueurs qui vont compenser parmi les recrues qui sont présentement au camp. Mais Lopez, moi, je ne comprends pas pourquoi on l'a laissé partir. C'est un atout de plus dans le jeu des Blue Jays. Mais je pense que du côté de San Francisco, il faut miser sur sa rapidité. Mais je pense qu'il peut se tailler une place du côté des Giants, à tout le moins comme réserviste.
Il y a un joueur québécois qui s'appelle Robin Villeneuve. Il y a le nom d'un gars de Chicoutimi ou de Jonquière. Ouais. Tu sais, des Robin Villeneuve, on en connaît deux, trois ici dans la région. Lui, il a connu le match de... C'est un gars de Québec, c'est Robin Villeneuve?
Oui, bien, c'est un gars de la Rive-Sud, Robin Villeneuve, Rive-Sud de Montréal.
De Montréal, OK.
Écoute, tu sais que le football, le baseball, c'est-à-dire universitaire, un peu comme dans la NFL, il y a beaucoup de joueurs. C'est une voie qu'ont emprunté plusieurs joueurs pour se faire découvrir par des équipes du baseball majeur. Ça a été le cas pour Russell Martin, qui a joué au baseball universitaire également. Et là, il y a Robin Villeneuve, qui a produit 5 points dans un match. Il a frappé 2 circuits, un double et un simple, en début de semaine avec les Vols du Tennessee dans la Ligue universitaire. Début fracassant pour ce joueur, Robin Villeneuve, qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, selon ce qu'on raconte.
D'abord, pourquoi tu l'appelles Robin? T'es un gars de Montréal, Robin. Ils l'appelleront Robin aux États-Unis. Nous autres, ici au Québec, on va l'appeler Robin Villeneuve.
Non, t'as parfaitement raison.
Un instant, ils nous mélangent assez, les autres-là.
C'est une crampe au cerveau. Okay. C'est une crampe au cerveau. Je pensais à Robin Williams.
OK. Alors, Robin Villeneuve.
Je pensais à Robin, mais c'est un prénom qui n'est pas commun. Hein, à ma défense, il faut dire que c'est un prénom qui n'est pas commun. Mais quel début de carrière universitaire, puis des chances de se faire recruter par une équipe du baseball majeur. Et tu sais aussi qu'aux États-Unis, le softball est très, très populaire. On a eu les quatre chevaliers au Kif, là, ici, mais je veux
dire,
je parle que softball, là, il y a des ligues professionnelles aux États-Unis, autant féminines que masculines. Et là, il y a une Québécoise de Charlebourg, Rosalie Dufresne, qui s'est signalée dans la NGCAA. C'est une ligue de softball collégiale aux États-Unis. Elle a frappé un circuit, un double, 2 buts sur balle. Elle joue pour les Eagles de Tallahassee, Community College, aux États-Unis, en Floride. Elle frappe pour 475.
Là, on parle de softball, c'est ça?
De softball.
De softball,
absolument.
OK.
Il y a de plus en plus de Québécois qui se démarquent, que ce soit au baseball, que ce soit au softball. C'est très intéressant, d'autant plus que l'équipe cette année, ben, les Expos, comme tu sais, ça fait 20 ans cette année, qui ont quitté Montréal pour des cieux plus cléments.
On a-tu des nouvelles? Je pose la question à Dominique aussi. Charles Davalan, qui a joué à Jonquière l'année passée avec les joueurs de troisième but, avec les Voyageurs. Lui, il est dans les camps. Je ne sais pas où il est, là, quel niveau. On a-tu des nouvelles de lui? Dominique a quelque chose, je pense, sur Charles Davalan.
J'essaie de retrouver un petit peu. Je sais qu'il a joué un petit peu au niveau de la Floride, dans ce coin-là. J'ai posé la question à Jérémy Chalifour. Il espère être en mesure de venir nous donner un petit coup de main cet été. Quelques matchs avec
les Voyageurs.
On l'espère encore. Mais savoir qu'est-ce qu'il a fait cet hiver, j'ai pas fouillé, j'ai pas regardé.
OK. Il y a autre chose à rajouter, Michel, concernant le baseball?
Écoute, le match de cet après-midi a été diffusé sur les ondes de Sportsnet. Il y en a encore une vingtaine à venir sur les ondes de Sportsnet. Alors, les Blue Jays sont très présents, ça me permet de suivre l'évolution de l'équipe.
Puis cette semaine, il y a Otani qui a frappé un circuit. Selon toi, il va en frapper combien des home runs?
Moi, écoute, il a connu une saison de 44 circuits déjà. Moi, je dis au moins une quarantaine de circuits.
Ben, minimum, là, au salaire, à 70 millions, il est mieux de ne pas en frapper juste 23.
Ça va être peut-être un derby entre lui puis Vladimir Guerrero. J'ai l'impression que ça va être deux joueurs là, qui vont, au niveau des statistiques, là, ça va être tout un combat entre ces deux.
Mais Guerrero, s'il veut gagner 70 millions, il va falloir qu'il se mette à lancer.
Oui, mais Vlad, écoute, moi, comme je te dis, je m'attends au moins une quarantaine de circuits pour Vlad. Puis une centaine de points produits et plus. Parce que là, ça passe, ça casse les Blue Jays cette année, Michel et Dominique. Parce que, écoute, Beau Bichette, l'an prochain, devient agent libre. Vladimir Guerrero n'aura pas de contrat l'an prochain.
Non, puis on a un bon. Oublions Manoa. Là, Manoa, on n'a pas confiance. Là, mais à part Manoa, il n'y a pas un mauvais personnel de lanceur, les Jays. Là.
Ben, ils ont un des meilleurs, selon les pseudo-experts de la Chapelle sportive, mon cher Michel.
Oh, la Chapelle sportive, j'aime ça!
Puis le prophète, c'était Ron Fournier à l'époque.
C'est Ron, oui.
C'était Ron, bye-bye, bonsoir. Mais, écoute, moi, je pense que les lanceurs... Berrios s'est lancé cet après-midi, deux manches. On est toujours en match hors concours, mais quand même, deux manches. Il n'y a pas donné de surballe, rien à déclarer. C'est les lanceurs de recrues relève qui ont eu plus de difficultés là, du côté des Blue Jays. Mais du côté des patins, ils ont l'expérience. Ouais. Et puis l'arrivée, on a bien hâte de voir le premier départ de Ariel Rodriguez.
Oui, Rodriguez. On a perdu Ryu, par exemple.
Oui, on a perdu Ryu, mais je pense que Rodriguez, avec les fiches qu'il a démontrées, avec les statistiques qu'on a vues là, au Japon, je pense que c'est justement le quatrième lanceur. Là. Il va devenir sûrement une roue très importante du côté des Blue Jays, qui vont avoir quatre lanceurs d'expérience. Il y a Gossman, il y a Bassett également, bien sûr. Alors, je pense qu'ils vont... les Blue Jays ne connaîtront pas de série de défaites à tout le monde, je ne pense pas. Là. Mais naturellement, si Manoa peut se replacer, on ne sait jamais. Si jamais il peut se replacer, puis Walker semble confiant qu'il va redonner le lanceur qu'il était, bien là, ça serait un gros plus pour les Blue Jays.
OK, prions le Seigneur pour Manoa. Merci beaucoup, Michel Bureau.
Merci, messieurs.
Merci, au revoir. J'ai trouvé des statistiques pour Charles Davalant, qui joue actuellement avec l'Université Gulf Coast de Floride. Il a joué 8 matchs en février, au cours des derniers jours. Frappe pour une moyenne de 303.
Hey, c'est bon, 303!
10 coups sûrs en 33 présences, 9 points marqués, 2 doubles, 1 triple, 4 points produits. Il a reçu 7 buts sur balle, il n'a pas frappé de circuit. Moyenne de puissance de 424. C'est intéressant. Très les statistiques bon. Intéressantes.
Puis, très, très bon. Ça,
j'ai posé la question à Jérémy Chalifour lors du point de presse des voyageurs il y a quelques jours. Puis, penses-tu que Davalant va... Ils disent, on communique avec. Lui est intéressé à venir. Ça va dépendre de son école. Si son école lui permet, tu peux retourner à la maison quelques jours.
C'est une attraction.
C'est une attraction.
T'es là pour les voyageurs, tu remplis la cabane.
Bien, ça, c'est sûr. T'sais, souvenez-vous, l'an dernier, quand il a joué avec les voyageurs, je vous rappelle, il a joué 20 matchs. Une moyenne au bâton de près de 500. Lui, c'était un coup sûr sur deux.
Tu sais, il va peut-être jouer dans le baseball majeur. Tu sais, ce serait le fun, à un moment donné, à prendre à nos auditeurs. Charles Davalant a été rappelé par telle équipe, puis il va jouer un premier match dans le baseball. Il nous a parlé, puis il nous a promis qu'il allait nous reparler quand il allait jouer dans le baseball majeur.
33 coups sûrs en 20 matchs, 34 points marqués, moyenne au bâton de 485, 5 circuits, 25 points produits. Extraordinaire.
Très bon joueur de baseball. Ce soir, Motombo, deuxième match de suite. Mais mon Dieu, mais le Canadien est tombé sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Les gardiens vont être mêlés?
D'habitude... Ouais, ils commençaient à penser aux séries, eux autres. T'es un petit peu trop tard.
un peu pas mal trop tard. Alors ce soir, c'est en Floride contre les Panthers. Il y a des bonnes games ce soir. Là. Dallas qui joue, Colorado, Boston.
Je veux savoir la différence entre le Canadien et les Panthers. Là. 28
points. Et on est loin des séries. Hein? Là, on est 26e dans la Ligue, 27e. On va repêcher les derniers encore.
Les premiers. Ottawa, le temps de nous repêcher. Oui, on repêche top 10, ça, c'est sûr et certain.
Ottawa, il nous reste 30 secondes. Tu crois-tu à ça, rumeur, que Tkachuk va t'échanger?
Ouais, putain. T'as-tu vu la première?
C'est quoi?
À Montréal.
Est-ce
qu'ils sont épais?
À Montréal.
Gang! Hey, j'ai vu la transaction.
Slavkovski?
Non, c'est contre Caulfield, Chekai et un choix de premier rond.
Oh.
Échanger des perdants contre des perdants. Allez, on va bien. Lâchez pas.
Ils n'ont rien à dire à Montréal. Hein?
Moi, personnellement, Tkachuk, pas sûr.
Pas sûr non plus.
Capitaine, va être un leader. M'excuse, là. Il n'a pas amené sénateur à la prochaine étape.
Hey, un premier choix, Jack Hyde et Caulfield?
Ouais. Okay. Personnellement, je le fais pas. Non.
Goodbye, j'aime mieux garder Caulfield. Goodbye. Ce soir, le retour s'en vient avec. Et oui, qu'es-tu revenu? Le vent d'en face de l'abbé, es-tu passé?
Ah, il est correct, il est correct.
Il est prêt.
Oh oui.
Toupette et...
Puis il manquait pas le début de l'émission.
Oh oui. On reste à l'écoute.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.